Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture. Et c'est comme pour la Saint-Valentin, ces deux-là sont faits pour s'aimer. Il y aura le journal des médias, évidemment, le journal de la culture et des conseils pour le week-end sur le thème cœur avec les doigts. Notre info média, ce sera avec Hélène Risser, la journaliste de Public Sénat, a passé les 15 premières années de sa vie en hôpital psychiatrique, oui. Pour cause, ses parents étaient psychiatres et à l'époque, on sortait de mai 68, les malades n'étaient pas enfermés, même sa nounou était une patiente quand elle était bébé. Elle en a tiré un documentaire très personnel, mais qui pose également beaucoup de questions, elle sera avec nous. Vous avez aimé Sandrine Quétier, animatrice de TF1, vous allez adorer Sandrine Quétier, comédienne sur France 3, Meurtre dans le Jura, ça risque de faire la grosse audience de samedi, elle a le premier rôle. Vous avez aimé la polémique sur les Césars, vous allez adorer la polémique sur les victoires de la musique, c'est ce soir sur France 2. Le producteur Valéry Zetoun est en lice pour le concert des vieilles canailles. C'est lui le producteur et il n'a pas sa langue dans sa poche. Hélène Manarino, qui n'a pas sa langue dans sa poche non plus, fera son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Justine Holman.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Le journal des médias, c'est maintenant avec vous, Benjamin Delsol, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au menu ce matin, Benjamin.
Les quotidiens nationaux augmentent leurs ventes. Clint Eastwood dans l'équipe des travailleurs du Clic et Netflix qui se remet au tennis.
Mais d'abord, on commence par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Et c'est TF1 qui arrive largement en tête hier soir avec un nouvel épisode de Munch. La série avec Isabelle Nanty et Marie-Lou Berry a été regardée par 5 126 000 téléspectateurs, soit
gros
24%
score.
De part de
on
marché.
On était plutôt sur des 3 millions, 3 millions et demi pendant les vacances. 5 millions, c'est beaucoup.
Gros score, oui. Suivi par France 3 qui rediffusait L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Le film a été vu par 2 474 000 téléspectateurs et 12% de part de marché.
Ouais.
Et c'est France 2 qui se classe à la 3e place. France 2 qui proposait un nouveau numéro d'envoyé spécial qui était consacré notamment aux troubles du sommeil. L'émission d'Élise Lucet a réuni 2 355 000 téléspectateurs pour 11,7% de part de marché.
Je pense à tous les gens qui ont regardé l'émission et qui ensuite n'ont pas réussi à s'endormir. Le journal des médias maintenant et quelques chiffres encore, de bons chiffres, ceux de la diffusion des quotidiens nationaux qui viennent tout juste d'être dévoilés.
Oui, l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, a fait les calculs et la principale information à retenir de tout ça, contre toute attente, les ventes de la presse quotidienne augmentent grâce au numérique. La diffusion des titres papier continue de baisser, moins 3,6% en 2019 pour 3 milliards d'exemplaires vendus tout de même. Mais le numérique continue sa percée en faisant un bond de 23,6% pour les formats PDF. Alors format PDF, c'est les journaux qu'on peut lire sur nos ordinateurs ou nos smartphones. Une bonne nouvelle qui concerne notamment les quotidiens nationaux.
Ah oui, alors quels sont ceux qui progressent le plus, Benjamin?
Le grand gagnant, c'est Le Monde, dont la diffusion progresse de 12,2%, puis Libération, 6,3%, et Le Figaro augmente sa diffusion de 5,3%.
Alors ça, c'est la progression pour l'année. En termes d'exemplaires maintenant, ça donne quoi?
Alors en additionnant les diffusions papier et numérique, c'est Le Figaro qui se classe premier quotidien national avec 325 000 exemplaires.
Par jour?
Par jour, exactement, ouais. Oui. Un Figaro qui est tout rose aujourd'hui, d'ailleurs, aux couleurs de l'amour et surtout, je pense, de son partenaire publicitaire. Et Le Figaro qui est suivi par le journal Le Monde, 323 000 exemplaires, et L'Équipe, 234 000 exemplaires par jour.
Et alors, la transition est toute trouvée, puisque vous nous parlez ce matin également d'une interview inédite à lire dans le quotidien L'Équipe.
Oui, le quotidien sportif publiera dimanche une interview de Clint Eastwood dans laquelle le réalisateur américain raconte la genèse de son nouveau film. Le film s'appelle Le cas Richard Jewell. Il sortira en salle mercredi prochain et c'est un film qui revient sur l'attentat des JO d'Atlanta en 1996.
Richard, vous êtes devenu un héros national.
Merci, monsieur.
On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe comme à celui qui a trouvé le cadavre.
Jewell correspond au profil du poseur de bombes solitaire. Un homme blanc frustré qui rêve d'être dans la police, qui a envie de devenir un héros.
Richard Jewell a été effectivement suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des États-Unis. Et si je vous en parle ce matin, ici Philippe, c'est parce que les médias n'y sont pas pour rien. Comme le raconte L'Équipe, c'est le grand quotidien local, l'Atlanta Journal-Constitution, qui à l'époque a révélé au grand public que le FBI tenait plus qu'un suspect, mais un coupable idéal en la personne de Richard Jewell. Des médias que Clint Eastwood met en cause dans le film, mais aussi dans l'interview.
Il s'en prend à qui ?
À travers l'histoire de son héros, il s'en prend aux médias d'aujourd'hui. Clint Eastwood évoque dans L'Équipe que Richard Jewell est juste la victime d'un phénomène qui s'est aggravé ces dernières années. Le phénomène, c'est celui de juger les gens sur de simples apparences et de les détruire sans autre forme de procès. Il dénonce dans les colonnes de L'Équipe entre la course entre les médias, disant, je le cite, Fox News, CNN, ABC, plus aujourd'hui les réseaux sociaux. Il faut impérativement sortir des scoops avant les autres sans toujours prendre le temps de les vérifier. Et le réalisateur américain ajoute, l'idée n'est pas de dénoncer tel ou tel média, mais un système qui peut devenir hors de contrôle. On nous a toujours raconté des conneries, mais au moins avant, on y croyait. On se disait, si c'est écrit dans le journal, c'est que ça passe à la télé, alors forcément, c'est vrai. Alors que maintenant, vous pouvez lire 10 fois le même truc, vous aurez toujours le sentiment de vous faire avoir. Ça, c'est ce qu'il raconte donc dans l'interview qui est à lire dans son intégralité dans l'équipe à paraître dimanche. Et le film Le cas Richard Jewell sort lui mercredi prochain en salle et c'est un film européen.
Un film signé Clint Eastwood. On poursuit avec un documentaire qui montre celles et ceux qu'on ne voit pas.
Ce documentaire s'appelle « Invisibles, les travailleurs du clic ». Ce sont des hommes et des femmes qui font de petites tâches pour de grandes plateformes numériques. Des travailleurs dont on ignore l'existence, mal payés et bien cachés derrière nos applis. Car non, ce ne sont pas que des algorithmes et des robots qui sont derrière tout ça, comme l'explique le sociologue italien et expert éditorial sur le projet, Antonio Casilli. Il est interrogé dans le film « Écoutez ».
Le plus grand tour de passe-passe de ces plateformes, à mon avis, c'est d'une part de faire croire à... aux consommateurs ou en général aux usagers qu'il y a des processus automatiques, qu'il y a des algorithmes partout, alors que très souvent c'est vraiment des tâches qui sont réalisées à la main. Et de l'autre, de faire croire aux travailleurs que d'abord ce qu'ils réalisent n'est pas un vrai travail, ils l'appellent un job, un gig en anglais, donc voilà, quelque chose qui est transitoire, éphémère et qui à terme va disparaître.
Et ce que le réalisateur Henri Poulain a suivi, son livreur de repas à vélo, enchaîne des tâches, de micro-tâches pour des géants du net ou modère les réseaux sociaux. Il travaille pour Uber Eats, il travaille pour Google ou pour Facebook, des applis qu'on utilise évidemment tous les jours. En réalisant cette enquête en France, à Barcelone, à Dublin et jusqu'à Madagascar, le réalisateur nous fait pénétrer dans un monde qu'on ne connaît pas, dans un monde qu'on ne veut pas forcément voir et qui a toutes les raisons de nous faire peur. Et on lui a demandé pourquoi.
Bien sûr que ce documentaire, ce qu'il révèle peut faire peur et fait peur, puisqu'on est dans un monde un peu fou quand même. Ce qui fait peur aussi, c'est l'extrême paradoxe, le gouffre qu'il y a entre le discours et la réalité, entre ce qu'on nous raconte et le monde dans lequel on croit vivre, un monde finalement où la technologie est là pour aider l'humain et simplifier le quotidien, et réaliser que cette simplification apparente génère mécaniquement, génère effectivement de la brutalité, de la violence sociale, de la misère, la difficulté à vivre, une exploitation qui est digne de celle du 18e ou du 19e siècle, d'avant les toutes premières lois sociales.
Voilà, et la série documentaire montre non seulement la précarité de ceux qui bossent pour ces géants, mais au-delà de l'humain, c'est l'utilisation des data. Eux sont tracés dans leurs activités, et nous aussi, nous sommes évidemment suivis, voire même plus. Comme l'attestent un des témoins du documentaire, il parle à visage découvert, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il a été un sous-traitant pour la firme à la pomme, et il nous parle de sa célèbre appli de commande vocale, et ce qu'il raconte est édifiant.
Siri n'est pas une intelligence artificielle. Ce sont des gens qui nourrissent la machine. On continue. Et ça, c'était mon travail. On va donc mettre un casque sur nos oreilles. On va écouter des enregistrements toute la journée. Je me doutais déjà depuis un certain temps qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à des espionnages dans ce genre d'appareil. Après, je ne me doutais pas qu'on en arrivait au point d'écouter les gens en permanence, en fait. Les micros des appareils Apple sont ouverts en permanence. Et les enregistrements se déclenchent de manière aléatoire.
La tête des gens dans ce studio.
C'est horrible.
Voilà, ouais. Donc nous sommes écoutés, nous ici, là, maintenant, tout de suite, on le savait.
Mais heureusement qu'on nous écoute, on est de plus en plus écoutés. Continuez, messieurs de Siri et mesdames.
Invisible, les travailleurs du clic, c'est 4 épisodes de 20 minutes d'Henri Poulain et Julien Goetz. C'est disponible uniquement en numérique, comme quoi c'est sur la chaîne web de France Télévisions, France TV/.
Et puis pour terminer, Netflix va suivre une championne de tennis.
S'il vous plaît, venez.
La plateforme de streaming propose déjà un doc sur Serena Williams, sorti il y a 4 ans maintenant. Mais selon le site américain Variety, Netflix tourne actuellement un documentaire sur la star japonaise du tennis, Naomi Osaka. Débutant en août dernier à l'US Open, il s'achèvera sur la préparation olympique de l'actuel numéro 10 mondial, en vue des Jeux Olympiques de Tokyo de l'été prochain. La championne a dit « Cela ne ressemblera pas à un documentaire de sport traditionnel ». Elle a dit ça dans un communiqué. Netflix, de son côté, n'a donné encore aucune date de sortie.
Merci beaucoup Benjamin Delsol pour ces 2 semaines parmi nous. On va retrouver lundi Cyril Lacarrière et maintenant c'est le moment de payer votre coup.
Merci Philippe.
Restez avec nous dans quelques minutes. On parlera du documentaire « Le monde normal » qui explique l'évolution de la psychiatrie et qui passera demain soir sur Public Sénat. Philippe Vandel reçoit la réalisatrice pour en savoir plus. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et tout de suite Philippe, c'est l'info média du jour.
C'est une voix qui compte dans le journalisme politique français. Hélène Risser présente sur Public Sénat l'émission Hashtag, dans laquelle elle décrypte les stratégies des politiques et parfois même les hommes politiques eux-mêmes. Et d'une certaine manière, Hélène Risser vient de retourner la caméra et l'introspection vers elle, puisqu'elle est au centre d'un documentaire qui sera diffusé demain samedi à 21h sur Public Sénat, suivi d'un débat animé par Jérôme Chapuis dans la case Un monde en doc. Le documentaire s'appelle Le monde normal et il débute par le récit de l'enfance d'Hélène Risser qui n'a pas été normale puisqu'elle a passé en quelque sorte les 15 premières années de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Bonjour Hélène Risser.
Bonjour.
Alors je m'empresse de rassurer nos auditeurs et les vôtres, vous n'étiez pas internés mais vos parents étaient psychiatres tous les deux, papa et maman, et vous habitiez au cœur de l'hôpital psychiatrique. C'était où et c'était quel genre d'établissement ?
Alors oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que le petit teasing, la petite blague que vous avez faite, il faut dire que je l'ai énormément faite parce que ça m'a toujours amusé de provoquer une espèce de réaction comme ça d'étonnement, de scepticisme en disant bah oui j'ai grandi, moi j'ai passé mon enfance dans un hôpital psychiatrique,
j'ai appris ça de vous, je suis tombée de ma chaise.
Dans un hôpital psychiatrique, ce qui est une manière, ce qui est pas juste une blague, hein, ce qui est aussi une manière de questionner le regard que les gens ont sur la psychiatrie, donc c'est aussi une manière de faire réagir et de pousser les gens à se questionner sur ce regard qui est évidemment pas toujours normal, alors que les patients psychiatriques, il y a évidemment toute une palette de patients psychiatriques.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Oui.
C'était quel genre d'établissement ?
Alors, je vais vous répondre. Dans le premier établissement où je suis née, on va dire, c'était un vieil hôpital, un hôpital asilaire, en pierre, sur le modèle des hôpitaux du 19e siècle, quand l'hôpital psychiatrique, c'était encore là où on donnait l'asile.
Ouais.
Pour les gens qui n'avaient pas de quoi vivre à l'extérieur, et les patients restaient souvent très longtemps. Et donc, c'est là que mes parents ont débuté fin des années 60. Je suis née quelques années après. Et donc, mes parents ont eu un choc en arrivant dans cet hôpital parce que ça ne correspondait pas du tout à ce à quoi ils étaient formés, à ce qu'ils imaginaient de la psychiatrie. Quand on arrive en 68 en tant que jeune psychiatre dans un hôpital, ils ne s'attendaient pas à ça. Et quelques années plus tard, ils ont ouvert un nouvel hôpital en 74 qui était un hôpital, pour le coup, conçu sur les principes de la nouvelle psychiatrie, un hôpital ouvert, sans porte, sans grille, donc totalement à l'opposé.
Vos parents étaient totalement ouverts, pour reprendre ce terme, notamment quand il vous confie toute bébé à une nounou qui s'appelle Erika, qui était elle-même non pas une infirmière, mais une pensionnaire de l'hôpital psychiatrique. Et ce qui est très fort, c'est que vous avez retrouvé Erika chez elle. Elle habite seule dans un studio et on a froid dans le dos pour vous. Elle raconte qu'elle est tombée dans l'escalier. On se dit qu'il aurait pu arriver quelque chose de très très grave à Hélène Risser.
Alors c'est gentil de s'inquiéter pour moi. Ce qui est intéressant, parce que Erika, effectivement, c'était une patiente de l'hôpital, du premier hôpital où travaillaient mes parents. Et donc toute la question, mon but n'est absolument pas de porter un diagnostic ni quoi que
Bien
ce soit.
Hein,
mais c'est vrai que quand elle s'est occupée de moi, elle s'est occupée de mes petits frères, que j'interview aussi pour voir un peu quel était leur rapport à Erika.
Ah non, mais quand même, pour dire le genre de nounou qu'elle était, votre frère raconte qu'elle le laissait descendre d'un toboggan de 6 mètres de haut en skateboard. Elle était en bas, elle regardait faire, elle disait rien. Et vos parents disaient rien.
C'est une autre époque aussi, mais elle n'était pas forcément au courant. Mais justement, c'est ça qui m'a questionnée. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai eu mes enfants, forcément, je me suis interrogée. Je me suis dit, pendant des années, son enfance, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle le monde normal. L'enfance qu'on a vécue, elle nous paraît souvent normale, jusqu'à ce qu'on grandisse, qu'on ait soi-même des enfants et puis qu'on s'interroge. Et moi, les gens se feront une idée de regard dans le documentaire. Hein, vous avez votre regard, chacun peut avoir le sien.
Erika, vous l'avez retrouvée, elle n'est pas normale maintenant, pour reprendre votre terme, parce que c'est le terme quand même. Elle vous raconte qu'elle va faire une course, elle a une peluche, elle le met sur une chaise, elle dit à tout à l'heure, elle parle à sa peluche comme un enfant de maternelle quand même.
Oui, c'est un objet traditionnel, on va dire.
Bien sûr.
Mais en même temps, et c'est ce que ma mère explique, c'est très bien pour elle, selon elle, elle s'est très bien occupée de nous. Et effectivement, vous citez l'histoire du skateboard qui arrive à mon frère et ma mère considère. Mais après, effectivement, ce qui est intéressant dans une investigation comme ça, c'est que chacun a son regard. Mmh. Et ma mère considère que ça s'est très bien passé. Après, effectivement, mon frère peut avoir quelques bémols, le spectateur peut s'interroger. Mais c'est justement ça que je voulais susciter, c'était le questionnement sur ce sujet-là.
Vous avez fait parler votre maman qui est revenue sur cette époque, votre frère, votre papa a refusé de témoigner. Pour quelle raison ?
Ou alors ça lui appartient. Je pense qu'il
Vous dites dans le doc, il ne veut pas parler des tâtonnements de cette époque.
Ça, c'est une supputation.
Ouais.
Mon père a écrit un livre, d'ailleurs, qui m'a donné envie de faire ce documentaire. Quand il a pris sa retraite, il a écrit un livre sur son expérience de psychiatre,
ouais,
qui est paru chez RS. Et où moi, j'ai découvert plein de choses que j'ignorais, voilà, sur notamment ce qui s'était passé, ce que je racontais tout à l'heure sur l'hôpital asilaire d'avant ma naissance, le choc qu'ils avaient eu. Ça, j'avais trouvé ça passionnant. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de faire le film. Et lui, ben, finalement, il a dû considérer, je ne sais pas, qu'il avait fait son livre ou qu'il n'avait plus envie d'en parler.
Alors, cet hôpital était créé sur un site de 29 hectares, c'est pas rien. Il y avait un petit village, il y avait son église, il y avait un théâtre, il y avait une salle de sport, il y avait un centre d'équithérapie, qui est de la thérapie par le cheval. Votre frère raconte que quand il était jeune, il y allait, il montait à cheval. Le box de son cheval était au milieu du centre et il ne voyait pas la différence entre qui était malade et qui était soignant. Et j'arrive pas à savoir si c'est rassurant pour les malades ou si c'est inquiétant pour les soignants.
Ben, ça veut dire que je pense aussi que ça veut dire qu'avec son regard d'enfant, il se posait même pas la question. Je crois que surtout c'est ce que ça veut dire.
Ouais.
Quand il était petit, et d'ailleurs il dit lui-même à un moment, mais moi je savais pas, enfin est-ce qu'Erika avait été patiente ou pas. Enfin quelque part c'était pas dans son questionnement, parce qu'on habitait dans l'hôpital, on jouait dans l'hôpital, on voyait bien qu'effectivement il y avait un certain regard sur l'hôpital venu de l'extérieur, hein, que le monde extérieur nous regardait nous-mêmes comme venant de l'hôpital d'ailleurs, c'est ça qui était amusant, donc on était nous-mêmes confrontés à ce regard, mais nous quelque part on vivait dans cet hôpital et je pense que lui ne se posait simplement pas cette question.
Ce qui est très intéressant dans votre documentaire Hélène Risser, c'est que non seulement il y a cette quête personnelle, mais vous êtes retourné sur les lieux, et là c'est la psychiatrie des années 2000 qui a pris le pas, et c'est ce regard-là dont on va parler juste après ça.
Et oui, on continue dans un instant à parler de l'évolution de la psychiatrie depuis les années 70 avec la réalisatrice du documentaire Un Monde Normal, diffusé demain à 21h sur Public Sénat, Hélène Risser. Alors restez avec nous sur Europe.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Depuis les années 70, la psychiatrie a bien changé et votre invité Philippe le sait mieux que personne, ayant grandi dans ce milieu. Hélène Risser a réalisé le documentaire Un Monde Normal qui sera diffusé demain à 21h sur Public Sénat.
Vous avez fait plus que vivre dans ce milieu, Hélène Risser, puisque vous viviez à l'intérieur même de l'hôpital psychiatrique où, je le rappelle, vos parents, père et mère, étaient tous les deux psychiatres. Retour en 74 et retrouvé un reportage de l'époque, il est passé sur FR3, une description de ce nouvel ensemble hospitalier document.
Beaucoup de choses ont changé depuis qu'en 1952 a été généralisé l'emploi des neuroleptiques, des médicaments qui ont pour effet de calmer immédiatement les plus agités. Depuis cette date, les hôpitaux psychiatriques ont été repensés. Les aliénés sont devenus des malades que l'on garde le moins de temps possible. Les médecins et infirmiers sont devenus en plus des psychologues et des animateurs d'activités d'éveil. Puisqu'il fallait reconstruire un hôpital, autant le faire en tenant compte de l'évolution de la thérapeutique. C'est ainsi qu'Eierstein a été créé sur un site de 29 hectares, un véritable petit village avec son église, son théâtre, sa salle de sport, tout cela dans un cadre de verdure à la lisière de la forêt. Les premiers malades qui arriveront dès le début de la semaine prochaine seront répartis par petits groupes dans des pavillons disposant de tout le confort.
On sent l'époque, on dirait presque un public rédactionnel. La musique est d'origine. Hein. Je précise, oui, oui. C'est pas vous qui l'avez rajouté. Ça, c'était avant. Car Hélène Risser, votre doc traite également de la psychiatrie moderne. Un nouveau pavillon a été construit de votre propre aveu. Vous y êtes allé, évidemment, on vous y voit. Vous sentez davantage dans une prison que dans un hôpital. C'est comment maintenant ?
C'est vrai que j'ai eu un choc en retournant parce que bon, cet hôpital est près de Strasbourg, mes parents n'y habitent plus, donc je n'y avais pas été depuis longtemps. Et en y retournant, en préparant ce documentaire, j'ai eu un choc parce que c'est un bâtiment, enfin moi j'ai eu l'impression, hein, la première fois que j'y suis allée, d'être dans une prison, quoi, des caméras de vidéosurveillance, un bâtiment fermé, des patios intérieurs pour que les patients puissent sortir sans aller dans le parc, des portes où on doit badger. Et c'est vrai, quand on n'a pas de badge, ce qui est forcément le cas de nombreux patients, eh ben, on est bloqué derrière toutes les portes et c'est un peu compliqué de circuler. Et c'est vrai que je dois dire que j'ai eu un choc. Alors même si, bon, on vous expliquera que, soi-disant, c'est plus confortable, qu'il y a des chambres individuelles, etc. Mais l'architecture et ce système de vidéosurveillance dit quand même beaucoup sur, forcément, le rapport aux patients, aux malades.
Comme et est-ce que l'ambiance était la même ? Vos parents racontent que la première fois qu'ils sont arrivés à l'hôpital, votre mère raconte qu'elle entendait des cris. Est-ce qu'ils avaient l'air d'être calmes, d'être énervés ? Est-ce que vous avez l'impression que, humainement, quelque chose avait changé ?
Après, il y a évidemment l'évolution des médicaments. Ma mère parle des cris, c'est en 68 quand elle arrive dans l'hôpital.
C'est avant les neuroleptiques.
Ça existait déjà, mais il y avait ce qu'on appelle les aliénés, des gens qui étaient vraiment très malades depuis l'enfance, qui poussaient des cris. Aujourd'hui, ce n'est pas cette ambiance qu'il y a. C'est vrai que la vie des hôpitaux psychiatriques s'organise aussi beaucoup autour de la distribution
des médicaments,
bien entendu, hein, surtout dans les pavillons fermés, qui sont forcément pour les cas, comme on dit, les plus lourds, quoi.
Qui sont justement les cas les plus lourds ? Qui on envoie ?
Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert, et d'ailleurs ce que racontent les infirmiers, c'est qu'il y en a un qui a une phrase que je trouve très, très juste. Il dit on met, la société hein, met beaucoup en psychiatrie les gens qu'on veut ranger, garder. Et de nombreux fichiers S, d'ailleurs, ouais. se retrouvent en psychiatrie.
Justement, on va y venir. Vous avez longuement parlé, évidemment, avec les médecins. Enfin, je dis évidemment, vous avez la chance de pouvoir leur parler. Ils ont accepté que votre caméra et vos questions soient dans ce documentaire. Il y a un membre du personnel soignant qui regrette de recevoir trop de personnes envoyées par la police en psychiatrie.
Il y a des hospitalisations qui sont demandées au niveau préfectoral suite à une garde à vue. Donc le patient est envoyé chez nous en psychiatrie, alors que est-ce que sa place est vraiment en psychiatrie ? On a eu une grosse période suite aux attentats où on a eu pas mal de gens qui étaient fichés, par exemple, et qui étaient hospitalisés chez nous. Parce qu'il y avait une crainte à l'extérieur et qu'il n'y avait peut-être pas nécessité de mettre en prison. Et du coup, on mettait la tendance à mettre en psychiatrie. Parce que c'est... Il y a cette idée que c'est fermé et qu'ils sont rangés en quelque sorte. Quoi.
Ce qui est dingue, c'est que ce soignant se demande si la place de ces gens-là est en psychiatrie, alors que quand on regarde les informations, les avocats se demandent souvent si la place de ces gens-là est en prison. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les envoyer en psychiatrie ?
Oui, bah ça montre bien que parfois c'est compliqué de choisir.
Ouais.
Et puis non, mais évidemment, il y a une palette de cas et puis chacun voit de sa porte. Mais ce qui est expliqué aussi...
Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est au nom de l'humain. C'est que les avocats disent la place d'un délinquant n'est pas toujours en prison, il faut le mettre en psychiatrie, il faut le traiter de manière humaine. Et les soignants disent l'inverse.
Oui, mais alors là, ce qu'ils expliquent, et ce qu'ils expliquent aussi, c'est que souvent les gens restent longtemps, parce que quand on est hospitalisé en psychiatrie, ça peut être effectivement à la demande du préfet, hein, à la demande, ou à la demande de la famille, mais là, voilà, à la demande d'un tiers. Et du coup, il faut prendre la responsabilité de laisser sortir les gens. Et souvent, dans les hôpitaux, les médecins considèrent que les patients vont mieux, mais la préfecture,
bien
voilà,
sûr, enfin, et puis ne, récidive,
veut pas,
il y a plein
ne
de
veut
cas.
Pas, voilà, laisser sortir les gens parce qu'il y a le fameux principe de précaution, le risque zéro, qui est tout à fait dans notre époque.
Il y a une affaire qui défraie la chronique en ce moment, le meurtre de Sarah Halimi, une sexagénaire juive. En décembre dernier, Kobili Traoré, 29 ans, a été déclaré pénalement irresponsable par la Cour d'appel de Paris qui a ordonné son placement en psychiatrie. Qu'en pensez-vous ?
Ou alors là, moi, je ne vais certainement pas...
Pas de cette affaire-là en général, mais de ces affaires... en particulier de ces affaires-là en général.
Bah, globalement, de toute façon, oui. Il y a dans les hôpitaux psychiatriques, et c'est ça qui, évidemment, crée la complexité. Il y a des cas très, très différents. Il y a des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes, qui sont suicidaires, des gens qui sont en dépression, des gens qui sont en burn-out. Et il y a toujours, évidemment, quelques personnes qui ont commis des meurtres dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux, bien entendu.
Y a un paradoxe. On a l'impression que les cas sont de plus en plus durs, mais on se dit le système est devenu de plus en plus fermé. Ce que vous dénoncez un petit peu, c'est court avec ses patients. Mais en même temps, le personnel hospitalier semble regretter les années 70. Mais comme, dans le même temps, vous le dites, de moins en moins de gens sont mis en psychiatrie, il ne reste plus que les cas les plus graves. Et donc, il est peut-être normal, pardon de dire ça, qu'on les enferme et qu'on les...
Bien sûr, ça fait partie et c'est aussi ce que j'essaye d'explorer. Hein. Et d'ailleurs, je me pose la question, aujourd'hui, quelqu'un comme Manounou, où est-ce qu'elle serait ? Quelle thérapie, on va dire, on lui proposerait ?
Parce qu'on voit de votre nounou, elle n'a pas l'air du tout dangereuse.
Non, bien entendu. Ah bah évidemment, c'est ce qui fait partie des gens qui... bien entendu. Mais... La difficulté, c'est ça, c'est qu'effectivement, dans les pavillons fermés, il y a les cas, on va dire, les gens qui sont en crise, comme on dit. Mmh. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où ils vont mieux. Et d'ailleurs, il y a une expérience, et là, je fais du teasing, je ne dirai pas la fin, qui est menée au sein de l'hôpital aujourd'hui, que j'ai pu suivre, et qui, justement, questionne beaucoup la politique actuelle.
Votre film va évidemment beaucoup plus loin, on l'a compris, qu'une histoire personnelle. Vous interrogez sur la crise actuelle qui secoue les hôpitaux. Il y a un manque de moyens, ça, vous le dénoncez évidemment, mais aussi un malaise sur le sens du travail en milieu psychiatrique. On a un peu l'impression que certains dans cette profession sont perdus, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là.
Ben, ça renvoie au petit extrait que vous avez passé tout à l'heure, qui est un exemple. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que les infirmiers se voient parfois comme gardiens de prison ou comme infirmiers ? Est-ce qu'ils sont là pour soigner ou pas ? Et évidemment, je n'ai pas enquêté sur les moyens, et on en parle tous les jours en psychiatrie. Ce que je trouve intéressant, c'est la question du sens du travail. Et justement, l'expérience à laquelle je faisais référence, elle questionne vraiment ça, et peut-être plus que les moyens. Je trouve que c'est un aspect encore plus intéressant. C'est-à-dire, quelle place on attribue aux soignants ? Quelle place on attribue à la psychiatrie ? Elle change beaucoup suivant les époques.
Nous resterons sur ces questions magnifiques. Merci beaucoup Hélène Risser. Le Monde Normal, c'est samedi à 21h sur Public Sénat. Il y a beaucoup de rediffusions. Si vous ne pouvez pas regarder samedi à 21h parce que vous regardez autre chose, le dimanche à 9h, le 22 à 22h30, le 23 à 10h30. Et vous pouvez aller sur le site de Public Sénat, toutes les dates. Et je crois qu'on peut avoir le replay également sur ce site. Merci Hélène Risser d'avoir été avec nous.
Merci.
Et d'être sortie de l'hôpital psychiatrique.
Culture Média continue avec votre prochaine invitée, Philippe. Sandrine Quétier, que vous allez pouvoir voir demain sur France 3 dans le téléfilm Meurtre dans le Jura. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et on accueille tout de suite Philippe, Sandrine Quétier.
Bonjour Sandrine Quétier.
Bonjour.
On vous connaît de la télévision, vous avez été l'une des animatrices vedettes de TF1, c'est comme ça qu'on dit, pendant 13 ans, 50 minutes Inside, Danse avec les stars, Ninja Warrior, chaîne que vous avez quittée il y a 2 ans pour vous consacrer à la comédie, à la musique. Et demain, on pourra vous voir dans le téléfilm Meurtre dans le Jura, c'est à 21h05, on va dire 21h sur France 3, épisode qui s'inscrit dans la fameuse collection Meurtre A, avec chaque fois une ville ou une région différente. Le dernier en date, c'était Meurtre en Cotentin, il y a 15 jours. Cette fois, c'est dans le Jura. Ouais. En quoi c'est important dans l'intrigue, le lieu ?
Ah bah parce que du coup, on rattache le lieu à ici, en tout cas, avec une légende autour du lac de Vouglans. Et puis, c'est un moyen de découvrir, c'est vrai, une région. Je trouve ça plutôt sympa. On a eu cette chance de ne pas avoir d'unité de lieu de tournage. Donc, on s'est beaucoup baladé dans le Jura. Et c'est vrai que c'est, voilà, on fait un peu de tourisme en même temps.
L'histoire, en quelques mots, vous pouvez la raconter ?
L'histoire, c'est un meurtre mystérieux, entouré une femme qui est retrouvée chez elle, entourée de fleurs blanches. Et ça fait penser à une légende de la Dame Blanche. Voilà. Et mon personnage, le capitaine Alain Buisson, va enquêter sur ce meurtre et va être flanqué d'un autre gendarme, capitaine, qu'elle n'a pas du tout envie de voir, qui est un Lyonnais et qui s'avère être le petit-fils de la défunte.
Elle est comment, Anna Buisson, votre personnage ?
Elle est dure, elle est cassée, elle est rugueuse, elle n'est pas forcément très aimable.
Elle est cash ?
Elle est super cash, elle est très physique.
La preuve.
Vous pouvez vous installer là.
Il y a une place là aussi. Personne n'utilise depuis le départ de Bertrand.
Dites-moi Céline, vous avez été nommée aux ressources humaines ?
Joseph, on en est où ?
Les relevés d'empreintes de semelles devant chez Rose correspondent à du 46.
Voiture 46 ? Ah bah c'est pas un gringalet, hein.
Et cette tête-là,
ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Non, mais on a lancé un avis de recherche. S'il est resté dans le coin, on va le trouver.
Du neuf au sujet du bébé ?
J'ai lancé une recherche auprès des hôpitaux et pédiatres du coin. J'attends des retours.
Bon, faut me secouer un peu tout ça. Aller voir les anciens patients de Rose, interroger les médecins du coin, les gens du village, je sais pas quoi. Mais faut vous bouger. Hein ? Je veux un rapport pour demain matin.
Bien, capitaine.
On a l'impression de se faire engueuler.
Ah, mais on se fait engueuler. En fait, elle parle pas, elle engueule les gens avant de parler. Elle est rarement très aimable, elle est pas très douce.
Alors, faut dire qu'on vous colle dans les pattes le petit jeune. Émeric Tourneau, 32 ans, c'est la vedette de la section de recherche de la gendarmerie de Lyon.
Exactement.
Faut que tu saches un truc. Le grand-père d'Anna, il était propriétaire d'une auberge juste à côté de la Chartreuse. Figure-toi qu'avant la construction du barrage, il a refusé l'offre de rachat de l'État. Alors, forcément, il a été ruiné.
Mais pourquoi il a refusé ? C'est stupide.
Parce qu'il a été trompé par son meilleur ami. Et le meilleur ami, je te le donne en mille, c'était...
Paul Tourneau, le grand-père d'Emeric.
Voilà, l'ingénieur du barrage. Il lui a soutenu que le projet verrait jamais le jour et qu'il pouvait dormir sur ses deux oreilles.
Ça promet pour l'enquête.
Donc on l'a compris, c'est pas le grand amour entre vous. Vous êtes deux familles qui se détestent.
C'est ça. Il y a ce côté aussi, tu sais, village où tout le monde se connaît. Exactement. Et où il y a sur plusieurs générations, des DN qui ont été attisés par des histoires d'argent, par des voilà. Donc on arrive sur un terrain qui est un peu explosif.
Vous savez ce qui m'a vraiment amusé, c'est que la famille Vandel, j'ai jamais raconté ça, vient du Jura, ils viennent de Champagnole, 39, voilà. Jusque là, tout le monde s'en fout. Et la famille de Carl Zéro aussi. C'est Carl Zéro qui m'a raconté ça. De son nom Marc Tellen, il m'a appris qu'il y a un petit village dans le Jura. Il m'a dit nos deux familles se détestent.
Ah, c'est génial.
C'est quand même incroyable.
Ouais.
Et donc, je ne sais pas où est ce village, mais j'aimerais bien connaître les deux familles, les Vandel et les Tellen, qui ne peuvent pas se blairer. C'est un duo, comme dans toute série policière. Il y a Starsky et Hutch. Là, c'est un homme, une femme, un jeune, un vieux. Il y en a un qui est chez lui, un qui débarque. Ça fait le cocktail pour que ça fonctionne.
Oui, ça fait le cocktail pour que ça fonctionne. Avec, bien sûr, au départ, vous l'imaginez bien, une certaine aversion, on va dire. Et puis, petit à petit, la carapace de ce capitaine Anna Buisson va se fendre un peu. Un peu parce que
mais racontez pas tout.
Mais elle va se fendre un petit peu et puis vous verrez exactement.
Ouais, racontez pas comment la carapace s'est fendue. Comment vous avez travaillé avec lui ? Ça se passait bien ?
Oui, ça se passait très bien.
Où est-ce que vous êtes engueulé au début et à la fin
Non, c'est jamais engueulé. Je suis allée le voir au théâtre.
Pardon, je dis un gros mot.
Je suis allée le voir au théâtre. Je l'ai rencontré un peu avant avec le réalisateur Éric Duret. On a commencé à faire des lectures, à bosser ensemble. Et puis il était de très bons conseils. Et ils ont tous été, toute l'équipe, extrêmement bienveillants et sympas. Parce qu'ils peuvent se dire aussi, c'est la nana qui débarque de la télé. Et voilà. Ouais. Et pas du tout. Été super.
Vous avez tourné dans le Jura, vous l'avez dit, autour du lac de Vouglans, c'était comment ?
Sublime. Pendant la canicule, chaud, donc 40 degrés.
Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que dans le Jura, c'est un des départements les plus froids de France avec le Doubs.
Chaleur de bête. C'était en juin, donc il faisait quand même très très chaud. Et ce que je disais, c'est un peu les 4 saisons en une journée. C'est-à-dire le matin, il fait 7, après il pleut, et l'après-midi, il fait 40.
D'accord.
Voilà, bienvenue dans le Jura. Mais c'est sublime. Franchement, c'est une région qui est magnifique.
Est-ce que vous êtes préparé d'une certaine manière à ce rôle ou pas du tout ?
En fait, je me suis préparé, la maison avant. Je travaille avec un répétiteur, un coach, je connaissais le scénar à peu près par cœur, et puis on l'a décortiqué. compliqué. Et surtout, j'ai essayé d'imaginer une vie à ce personnage en dehors du scénario. Anna Buisson, comment elle, qu'est-ce qu'elle prend le matin au petit-déj, comment elle vit, quelle a été son enfance, pour vraiment avoir un personnage un peu plus complet que l'extrait finalement qu'on nous propose dans un scénar.
Vous savez quoi, vous m'avez grillé mes questions. J'avais prévu de savoir ce que prenait Sandrine Quétier le matin au petit-déj.
Un café, un truc de malade.
Mais non, je déconne. On va parler.
Ce matin, Culture Média s'intéresse à la nouvelle carrière de Sandrine Quétier, celle de comédienne. Elle joue dans le téléfilm Meurtre dans le Jura qui sera diffusé demain sur France 3. Elle continue à nous en parler dans un instant, alors ne bougez pas sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Demain, 21h05 sur France 3, vous allez pouvoir voir le téléfilm Meurtre dans le Jura. Sandrine Quétier y joue une capitaine de gendarmerie. Elle est votre invitée ce matin, Philippe Vandel.
Sandrine Quétier, ce n'est pas votre première apparition en tant que comédienne.
Non.
Vous aviez joué dans Joséphine Ange Gardien, Commissaire Magellan, Crime Parfait, mais... C'est la première fois que vous avez le rôle principal.
Oui.
Ça s'est passé comment? Vous avez fait un casting? On vous a appelé? Qui vous a appelé?
Non, parce que suite à Magellan et à Crime Parfait, on m'a proposé le rôle. Suite à ce que j'avais fait, France 3 me l'a proposé. Et j'étais super surprise. Donc j'ai rencontré tout de suite, il y avait Pierre-Yves qui avait déjà été aussi sélectionné pour le casting. Enfin, je crois qu'on l'a appelé aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, on a vite fait une lecture, on s'est rencontrés et on a commencé à travailler notre scénar. Mais c'était. Et puis je me suis dit, il ne faut pas que je me loupe.
Mais déjà, vous avez dit oui tout de suite.
Ah ben oui, bien sûr que j'ai dit oui, parce que j'ai eu le scénar tout de suite. Et puis ce côté de personnage un peu rugueux, un peu dense, un peu cassé, je trouvais ça plutôt sympa.
Donc vous avez eu le trac à nouveau, n'aviez pas en télé, puisque vous étiez habitué des plateaux télé.
En fait, on a le trac les deux, trois premiers jours. Et après, on est tellement concentré que le trac, pour ne pas se louper, parce qu'en plus, ça va vite. En télévision, on tourne vite. On doit mettre en boîte des choses assez rapidement. Puis il y avait des belles scènes, des beaux plans séquences, tout ça. Donc oui, on l'a, puis on l'oublie vite pour la concentration finalement.
Et on se prépare comment? De la même façon pour un prime time?
Non, parce que là, c'est pas vous. Hein. Là, c'est un personnage. Donc, comme je vous dis, on invente une histoire au personnage et c'est beaucoup de concentration. Et le truc, j'ai toujours mon petit côté besogneux que j'avais en télé, c'est qu'il faut que j'apprends par cœur. Donc, j'ai appris par cœur mon rôle. Et puis voilà.
Vous appreniez par cœur en télé? Vous n'aviez pas de prompteur?
Non, j'apprenais pas par cœur en télé. Ça dépendait des émissions.
Bon.
Il y en avait avec ou. Mais je savais exactement où j'allais.
D'accord. Est-ce que le téléphone sonne davantage pour une ancienne animatrice télé que pour une comédienne?
En fait, là, on me fait encore des propositions d'animation télé.
Ah oui.
Et on me fait aussi des propositions en comédie. Donc pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté et c'est vrai que j'ai quand même pas mal tourné. Donc pourvu que ça dure.
Pourquoi vous dites non à tous et à toutes en télé?
Parce que j'ai plus envie de faire de la télé.
Vraiment?
En tout cas, pas dans ce qu'on me propose. C'est-à-dire que je pense que je suis arrivée au bout dans le divertissement. Ça a été formidable. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir de très belles émissions. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur d'autres choses, mais en tout cas, pas dans ce que je faisais. Parce que ça y est, je l'ai fait. Ce que c'est.
Vous avez envie de faire quoi?
J'ai envie, alors pour le moment, en télé, rien.
Non, mais en télé.
Pas grand-chose. Mais en tout cas, si je dois revenir, ce sera peut-être plus pour du mag, du doc, des choses un peu différentes, du talk show.
Votre personnage, à un moment, dit passé 40 ans, tu sers plus à rien.
Ouais.
Vous avez ressenti ça
non.
en télévision?
Non.
Jamais.
Non,
c'est vous qui êtes parti,
oui,
il faut le dire.
Ça.
C'est vous qui êtes parti.
Oui.
Vous avez mûri ça pendant combien de temps?
2 ans. J'ai réfléchi pendant 2 ans en me disant il vaut mieux partir quand tu seras au top. Et puis surtout, tu as quand même des manques. Et des manques professionnels qui étaient la musique et la fiction. En me disant il faut que je me libère du temps parce qu'il ne faut pas que je passe à côté, je vais le regretter. Donc j'ai mûri ça pendant 2 ans. J'ai mis des petits sous de côté pendant 2 ans en me disant si c'est le désert, bon, au moins tu auras de quoi
tenir. Ah oui, parce que vous avez fait le saut dans le vide.
Oui.
Vous
complètement, j'avais rien.
Vous ne saviez pas
non.
si vous alliez trouver quelque chose
non.
à la sortie.
Mais je trouve que c'est le mieux finalement, parce qu'on se met le dos au mur comme ça, c'est mieux.
Magellan, c'était sur quelle chaîne?
France 3.
Ouais.
C'est eux qui m'ont donné ma chance.
Crime Parfait.
France 3.
Et là, Meurtre A.
France 3.
Et TF1, vous n'avez pas proposé
si,
une série?
Si, j'ai tourné chez mon camping paradis qui arrive dans 15 jours. Et puis, j'ai tourné un peu dans Joséphine Ange Gardien. On discute aussi avec TF1.
Ouais.
Pour le moment, il y a ça.
Mais quand même, il faut le faire, parce que j'ai lu dans une interview récente, pour dire dans Téléstar, le 26 janvier, que vous avez divisé votre salaire par 4.
Ouais.
Hein ?
Oui.
Il y a peu de gens qui le feraient.
Bah oui, mais encore une fois, j'ai eu la chance de gagner bien ma vie en télévision, de pouvoir mettre de l'argent de côté, ce qui fait que ça m'a un peu rassurée avant de me lancer.
Vous suivez Danse avec les stars ?
Oui. Alors, je ne suis pas toutes les semaines devant la télé, mais oui, bien sûr, je suis Danse avec les stars.
Le 17 novembre 2018, vous avez regardé Danse avec les stars, vous avez regardé Commissaire Magellan ? Parce que vous étiez dans Commissaire Magellan et vous les avez battus en audience.
C'est vrai qu'on les avait battus. Je me souviens de ça. Et je me souviens surtout d'un tweet d'Azoulay qui disait Sandrine Quétier devant Danse avec les stars, sauf que Sandrine Quétier, elle avait 3 scènes dedans. Donc, faut pas non plus. C'est une série qui est quand même forte.
Ouais.
Là, je sais pas. Je préfère rien dire pour demain.
Alors, votre nouvelle vie, vous l'avez dit, c'est la comédie, la musique. On le sait un petit peu moins.
Oui.
Mais depuis vos 17 ans, vous avez toujours eu un groupe et vous chantez donc au sein de ce groupe. Ça s'appelle The Jokers.
Yes.
USA, USA, USA. C'est un live, hein?
Oui, c'est un live.
Il y a une ambiance pub rock.
Oui, c'est ça. C'est
on
un
sent
peu
qu'on
ça.
Va se reprendre une bière.
Alors, pas tout à fait. Enfin, si vous avez envie, vous pouvez vous prendre une bière.
Non, mais pas à cette heure-là. Qu'est-ce que vous aimez dans la scène?
J'aime la liberté que procure la scène, en fait. Le côté où tout est possible. Et en plus, on est derrière des masques. Enfin, on est maquillé dans le même groupe qui s'appelle les Jokers. Donc, j'aime ce côté personnage aussi.
Personne ne vous reconnaît?
Alors maintenant les gens commencent à le savoir, mais j'ai encore, là on faisait la première partie de Jean-Baptiste Guégan, on était en tournée avec lui, et là les gens me disaient mais je ne crois pas que ce soit vous Sandrine, c'est pas vous, je dis mais si je vous assure c'est moi.
Parce qu'à la fin vous vous démaquillez sur scène?
Pas du tout, parce qu'en fait il y a des vidéos qui passent et puis il y a les gens qui se rendent compte que mais oui c'est Sandrine Quétier, alors je l'entends, ça me fait rire.
Vous allez regarder les Victoires de la Musique ce soir?
Oui je vais regarder les Victoires de la Musique, j'espère Clara Luciani, je l'adore.
D'accord,
elle
et, vous
super.
Et un mot, vous pensez quoi de la polémique?
Alors, la polémique.
Vous n'êtes même pas au courant. Vous savez quoi? Vous restez avec nous parce qu'il y a Valéry Zetoun qui arrive. Ouais. Il est en lice comme producteur pour les Victoires de la Musique. Grosse, grosse polémique. Il y a la fin de catégorie, notamment le rap. Il va y avoir plus que des petits blancs sur la scène. Il n'y a plus de catégorie rock. Vous aimez le rock?
J'adore.
Eh bien, vous n'aurez jamais la Victoire de la Musique. Merci beaucoup, Sandrine
Quétier.
J'avais
entendu pour les Césars qu'il y avait une polémique, mais je ne savais pas que pour les Victoires aussi.
Ah, mais non, mais tout le temps maintenant. Il n'y a plus de remise de prix sans polémique.
Oh,
sinon, c'est même pas la peine. Vous serez demain à 21h05 dans Meurthe, dans le Jura sur France 3. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de votre accueil.
Sur Europe.
Un instant, on poursuit avec notre heure culture, Philippe. Mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Europe 1 Culture Média avec le duo Stéphane de Grotte et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus. Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Grotte.
Toi, tu dis de Grotte.
Une vraie question. En France, on dit de Grotte.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je.
Rien. Gilles, je vous souhaite une bonne fête. 14 février, fête des amoureux. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est la mort de Valentin, du saint, qui est mort à 69 ans.
J'ai rien compris. Il est mort en saint ou c'est parce qu'il est mort qu'il est devenu saint?
Ça, j'en sais rien, moi. Vous allez offrir un bouquet de fleurs à votre amoureuse?
Bien sûr, à ma femme.
Vous connaissez les symboles des fleurs? Les rouges, les blanches, les roses?
Ça m'est égal. Je suis contre tout symbolisme.
Vous racontez un peu n'importe quoi, parce que vous êtes contre tout symbolisme, mais en ce jour de la fête des amoureux, vous allez quand même acheter des fleurs.
Je vais le faire pour faire plaisir à ma femme.
Donc vous êtes en plein dans le symbolisme. Vous êtes complètement paradoxal. Je vais vous parler de quelqu'un aujourd'hui qui s'appelait Jules Vallès. Mort un 14 février, il avait 52 ans. C'est mon premier livre, L'enfant de Jules Vallès. Vous avez envie de vous prendre une bonne boîte de Lexomil une fois que vous avez lu ça. Gilles, bonjour, vous êtes sur Europe 1 aujourd'hui.
Bonjour.
Gilles, la chronique littéraire. Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller?
J'ai lu un bouquin de Jérôme Garcin. Ça s'appelle La mort du cidre.
La mort du cidre.
Du cidre.
Oui, parce que le cidre marche moins bien aussi, ces temps-ci. On est plus sur le champagne. Vous êtes très bulle, vous?
Non.
Et bande dessinée?
Oui.
C'est un lien aussi. Hein.
Oui, c'est vrai.
On passe du coq à l'âne d'un sujet à l'autre. Si je vous dis Sirima, ça vous dit quelque chose?
Sirima?
Oui.
Siri?
Non. Sirima.
Sirimania.
Ne soyez pas moqueur, parce que c'est une histoire triste.
Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je peux pas être moqueur.
Non, mais alors vous êtes triste. Sirima, c'est le nom d'une jeune femme qui est morte. Elle avait 25 ans. Vous vous souvenez de la chanson Là-bas de Goldman?
Là-bas.
Non, pas Là-bas, Là-bas. Ça, c'est un homme et une femme.
Ouais. Vous savez pas de quoi elle est morte?
Assassinée par son amoureux.
C'est pas vrai.
Qui n'était pas vraiment amoureux, hein, s'il l'assassine.
C'est horrible.
C'est la naissance aussi, ce vendredi 14 février, d'un homme qui était le général Bigard. Et je pensais que c'était le père de Bigard.
De Bigard, c'est qui?
Bigard, l'humoriste.
Marcel.
Mais non, Marcel, c'est Marcel Bigard. Vous savez pas comment on s'appelle Bigard?
Dieu de.
Non, pas Dieudonné.
Mais j'en sais rien, moi. Christian Bigard. Raymond.
Raymond. Enfin, Jean-Marie.
Jean-Marie Bigard.
Vous aimez Bigard?
Il raconte des histoires qui me font pas rire. Mais je lui reconnais une façon de les raconter incroyable.
Vous êtes capable, vous, de raconter une blague?
Je la raconte pas bien du tout.
Racontez-nous une petite blague. C'est l'histoire de.
C'est l'histoire de. Je sais pas, d'un curé qui rencontre.
Une mouche.
Le curé dit à la mouche.
Allons, la pêche. La pêche à la mouche.
Pêche à la mouche.
Là-dessus, le curé lui dit je ne peux pas pêcher puisque je suis religieux. Je vais passer un coup de fil.
Et donc, la mouche dit
je ne vais pas canner tant que la pêche va pas à la canne.
Voilà.
Le poisson n'ira à l'hameçon.
Vous la connaissez.
Merci pour cette blague pleine de bon sens. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine.
Si Dieu nous prête vie.
Ils sont généreux, donc ça devrait se faire.
Merci.
Au revoir, Gilles.
Au revoir.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane de Grotte et Gilles Gaston-Dreyfus. Feuilleton quotidien à retrouver dès demain à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Valéry Zetoun, le producteur du show Les Vieilles Canailles et nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie création audiovisuelle. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, quels seront les courts-métrages nommés au César? Oui, la polémique a fait oublier qu'il y avait des films en lice. Réponse tout à l'heure avec Margot Barallon. Et puis enfin un roman original, Tu seras un homme mon fils. C'est Nicolas Carreau qui l'a lu pour nous.